des limites de la tolérance chinoise pour l'inégalité. Revenons-en à la question des inégalités en Chine et examinons l'évolution de la répartition des revenus depuis le début du processus de libéralisation économique et de privatisation de la propriété en 1978. Les sources disponibles indiquent une très forte progression des inégalités de revenus depuis le début des réformes, avec, semble-t-il, une stabilisation depuis le milieu des années 2000. En 1980, la part du revenu national allant aux 10% les plus riches et celle allant aux 50% les plus pauvres était presque égale, autour de 27%. En 2005, celle allant aux 10% les plus riches est de 42% environ, et celle allant aux 50% les plus pauvres de 15%, atteignant une certaine stabilité. À la fin des années 2010, si l'on en juge par la part du revenu national allant aux 10% du haut, environ 43%, et aux 50% du bas, un peu moins de 15%, la Chine est à peine moins inégalitaire que les États-Unis, et elle l'est nettement plus que l'Europe, alors qu'elle était la plus égalitaire des trois régions continents au début des années 1980. Voir graphique 12.8. Si on la compare à l'autre géant asiatique, l'Inde, alors il apparaît clairement que la Chine a été depuis le début des années 1980 à la fois plus efficace en termes de croissance et plus égalitaire dans sa répartition, ou plutôt moins inégalitaire dans le sens où la concentration des revenus s'est accrue moins fortement qu'en Inde. Ainsi que nous l'avons déjà noté au sujet de l'Inde, voire chapitre 8, le premier facteur explicatif est que la Chine a réussi à mobiliser des ressources plus importantes permettant d'investir dans les infrastructures publiques, l'éducation et la santé. En particulier, la Chine a réussi à atteindre un niveau de recettes fiscales beaucoup plus élevé que l'Inde, où les services de base de santé et d'éducation restent notoirement sous-financés, et même à se rapprocher dans les années 2010 des niveaux occidentaux, près de 30% du revenu national en recettes fiscales et environ 40% si l'on ajoute les profits des entreprises publiques et les ventes de terrains publics. Ces succès chinois sont bien connus, et il est habituel d'annoncer que le régime restera incontesté tant qu'il pourra s'appuyer sur ses réussites économiques et aussi sur la peur du séparatisme. Il faut cependant insister sur les limites de la tolérance chinoise pour l'inégalité. Tout d'abord, que la Chine soit devenue si vite beaucoup plus inégalitaire que l'Europe n'avait rien d'évident, et cela représente clairement un échec pour le régime. Dans les années 1980, le niveau d'inégalité des revenus était proche des pays européens les plus égalitaires, comme la Suède. Dans les années 2010, le niveau est plus proche des États-Unis. On retrouve la même conclusion concernant la concentration des patrimoines, ce qui montre au passage à quel point les privatisations ont été inégalitaires. La part du décile supérieur dans le total des propriétés privées était au début des années 1990 d'environ 40-50%, soit un niveau inférieur à la Suède et aux pays européens. Elle avoisine dans les années 2010 les 70%, soit un niveau proche des États-Unis et à peine inférieur à celui de la Russie. Or, le fait de passer du niveau d'inégalité de la Suède à celui des États-Unis, tout cela en quelques décennies, n'est pas une évolution anodine pour un pays comme la Chine, qui continue officiellement de promouvoir un socialisme aux caractéristiques chinoises. Pour une partie des milieux d'affaires qui considèrent depuis longtemps que ce type de slogan n'a aucune portée réelle en termes d'égalité socio-économique, cela ne pose sans doute aucune difficulté, tant le modèle du capitalisme anglo-saxon a pour eux des attraits évidents. Mais pour les intellectuels sociodémocrates, et pour une large part de la population, cette montée extrêmement rapide des inégalités pose problème, d'autant plus que personne ne sait jusqu'où ira une telle évolution. À partir du moment où l'Europe démontre la possibilité d'obtenir la prospérité tout en limitant les inégalités, il n'est pas aisé de comprendre pourquoi le socialisme chinois devrait tolérer des niveaux d'inégalités dignes du capitalisme états-unien. Cela pose des questions sur la façon dont les privatisations ont été menées, sur les politiques de redistribution en Chine et plus généralement sur la réorientation du processus de réforme. L'existence d'un passeport intérieur et de restrictions migratoires en Chine, notamment en zones rurales et urbaines, alors que la libre circulation des travailleurs est devenue la norme en Europe, peut également contribuer à expliquer les plus hauts niveaux d'inégalité observés en Chine. Concrètement, les réformes économiques ont surtout bénéficié aux centres urbains et les ruraux n'ont pu en bénéficier autant qu'ils l'auraient souhaité. Les assouplissements apportés au système au fil du temps ne semblent cependant pas avoir suffi pour réduire le haut niveau des inégalités chinoises qui paraissent liées à des facteurs supplémentaires, d'autant plus qu'on les retrouve également à l'intérieur de la Chine urbaine et à un degré moindre de la Chine rurale. Ajoutons que l'assouplissement du Hukou, qui reste un mécanisme très autoritaire, est allé de pair au cours des dernières années avec le développement d'un système de contrôle social potentiellement beaucoup plus intrusif avec les dispositifs de notation sociale et de crédit social basés sur la collecte d'informations à grande échelle sur les réseaux sociaux. Des recherches récentes indiquent que les groupes sociaux les moins favorisés semblent avoir une moins grande tolérance que les plus aisés pour ces dispositifs, dont la dimension répressive et les liens avec d'autres politiques d'encadrement de la population doivent également être soulignés. De l'opacité de l'inégalité en Chine. La stabilisation des inégalités depuis le milieu des années 2000 pourrait laisser penser que le plus fort de la hausse est passé. Il faut toutefois souligner l'extrême opacité qui caractérise l'enregistrement et la mesure des revenus et des patrimoines en Chine. Les estimations indiquées sur le graphique 12.8 à propos de l'inégalité en Chine, en Europe et aux États-Unis entre 1980 et 2018 sont les plus fiables que nous ayons pu établir avec des sources actuellement disponibles en Chine. Mais compte tenu des fragilités et des lacunes considérables de ces sources, il est tout à fait possible que nous sous-estimions à la fois le niveau et l'évolution des inégalités. En principe, il existe un impôt progressif sur le revenu en Chine. Le système a été mis en place en 1980, peu après le début des réformes économiques, et il comprend des tranches d'imposition et des taux marginaux allant de 5% pour les plus bas revenus à 45% pour les plus hauts revenus. Ces taux n'ont pas changé depuis 1980. Par comparaison au système de flat tax appliqué en Russie post-soviétique, avec un taux proportionnel de seulement 13% depuis 2001, le système chinois est donc en théorie beaucoup plus progressif. Le problème est que l'impôt sur le revenu n'a jamais donné lieu en Chine à la publication de données détaillées. Les seules informations régulières rendues publiques sont les recettes totales. Il est impossible de savoir combien de contribuables paient l'impôt chaque année, comment ils se répartissent par tranche de revenus, quelle a été la progression du nombre de contribuables à haut revenu dans telle ou telle ville ou province, etc. Cela pourrait pourtant permettre de mieux comprendre comment se répartissent année après année les gains de la croissance chinoise, et cela permettrait peut-être de se rendre compte également que la législation fiscale n'est pas toujours appliquée autant qu'elle le devrait. On sait par exemple que certaines provinces et villes obtiennent des régimes dérogatoires pour l'impôt sur le revenu, mais ces pratiques sont extrêmement opaques et mal connues. En 2006, l'administration fiscale chinoise a publié une circulaire exigeant que tous les contribuables disposant de revenus supérieurs à 120 000 yuan, soit en pratique moins de 1% de la population adulte à l'époque, remplissent une déclaration spéciale afin que les données correspondantes puissent être utilisées dans la lutte contre la corruption. Les résultats au niveau national ont été publiés de 2006 à 2011 sous une forme rudimentaire. Les données indiquent uniquement le nombre total de contribuables au-delà de ce seuil, et parfois le montant total de leurs revenus sans autre décomposition. Cette publication a été interrompue en 2011. Il a été possible de retrouver des données similaires dans les publications d'administration fiscale régionale, portant parfois sur les contribuables au-delà de 500 000 yuan ou de 1 million de yuan pour certaines provinces et villes entre 2011 et 2017, de façon irrégulière et incohérente. Ce sont ces données, extrêmement parcellaires, que nous avons exploitées. Aussi incomplètes soient-elles, elles nous ont permis de revoir substantiellement à la hausse le niveau et l'évolution des mesures officielles des inégalités en Chine, qui reposaient uniquement sur des enquêtes déclaratives auprès des ménages, et qui ne comprenaient quasiment aucun ménage à ces niveaux de revenus. Les estimations obtenues peuvent ensuite être comparées avec celles disponibles pour l'Europe et les États-Unis, qui reposent sur des données beaucoup plus détaillées, notamment fiscales, d'une façon plus plausible et satisfaisante que ce qui était disponible auparavant. Mais il est bien évident qu'il s'agit d'estimations extrêmement fragiles, qui peuvent sous-estimer le niveau comme l'évolution des inégalités. Le fait que les données nationales sur les contribuables à haut revenu ne soient plus publiées depuis 2011 est particulièrement inquiétant. D'une certaine façon, les informations rendues publiques au sujet du fonctionnement de l'impôt sur le revenu sont encore plus pauvres en Chine qu'en Russie, ce qui place la barre assez bas. Même si le manque de transparence au sujet des inégalités est un problème mondial, nous y reviendrons dans le prochain chapitre, on ne peut que constater que ces deux pays se caractérisent par une opacité particulièrement forte. En ce qui concerne l'enregistrement et la mesure des patrimoines en Chine, la situation est pire encore que pour les revenus. En particulier, il n'existe en Chine aucun impôt sur les successions, et par conséquent, aucune donnée d'aucune sorte sur les transmissions successorales, ce qui complique singulièrement l'étude de la concentration de la propriété. Il faut souligner à quel point il est paradoxal qu'un pays dirigé par un parti communiste, adepte proclamé du socialisme à la chinoise, puisse faire un tel choix. Tant que la propriété privée avait une ampleur limitée, l'absence d'impôt successoral n'était guère surprenante. Mais à partir du moment où plus des deux tiers du capital chinois sont détenus par des propriétaires privés, il est surprenant qu'on laisse ceux qui ont le plus bénéficié des privatisations et de la libéralisation économique transmettre à leurs enfants la totalité de leurs biens sans aucun impôt, aussi réduit soit-il. Rappelons qu'après bien des variations tout au long du XXe siècle, les taux d'imposition appliqués aux successions les plus élevés se situent dans les années 2000-2020 entre 30 et 55% dans les principaux pays capitalistes, aussi bien aux États-Unis qu'au Royaume-Uni, au Japon, en Allemagne ou en France. Au Japon, le taux le plus élevé a même été augmenté de 50 à 55% en 2015. En Asie orientale, dans les autres pays capitalistes de la région, il existe des impôts successoraux élevés, par exemple en Corée du Sud, avec un taux de 50% applicable aux transmissions les plus importantes. C'est ainsi que l'on se retrouve en ce début de XXIe siècle, dans une situation éminemment paradoxale. Un milliardaire asiatique qui souhaiterait pouvoir transmettre sa fortune sans aucun impôt aurait intérêt à venir s'établir en Chine communiste. Un cas particulièrement éloquent est celui de Hong Kong, qui avait un impôt successoral à l'époque britannique et qui l'a aboli en 2005, peu après la rétrocession de 1997 et l'intégration dans la République populaire de Chine. À Taïwan, les milieux d'affaires militent maintenant pour une large part pour l'intégration du pays dans la République populaire et demandent au passage que l'on supprime l'impôt successoral. Cette concurrence fiscale en Asie orientale, en partie tirée par la Chine, contribue à renforcer un mouvement par ailleurs mondial et à accroître la tendance à la montée des inégalités dans la région. De façon générale, le cas de Hong Kong illustre une trajectoire inédite et particulièrement intéressante. Il s'agit tout d'abord du cas unique d'un pays capitaliste qui est devenu encore plus inégalitaire en rejoignant un régime communiste. Surtout, la place financière de Hong Kong joue un rôle central dans le développement de la Chine. Elle semble notamment permettre à de riches Chinois des sorties de capitaux plus difficiles à organiser dans le système bancaire de la République populaire, et aussi aux grandes entreprises et au régime chinois de gérer certains de leurs investissements et transactions extérieures avec plus de souplesse. Rien n'indique à ce stade que les fuites de capitaux chinois aient pris l'ampleur observée dans le cas russe. Mais compte tenu de l'importance de la corruption dans le pays et de la fragilité de nombreux droits de propriété acquis lors des privatisations et de la croissance des dernières décennies, il est possible que ces fuites gagnent de l'ampleur à l'avenir et contribuent à miner le régime de l'intérieur. La Chine entre communisme et ploutocratie. Le système politique appliqué à Hong Kong illustre également les ambiguïtés du régime chinois, théoriquement inspiré du communisme et en pratique parfois plus proche d'une certaine forme de ploutocratie. Jusqu'en 1997, le gouverneur de Hong Kong était nommé par la reine d'Angleterre. La colonie était administrée par un système complexe d'assemblées élues au suffrage indirect et reposait en pratique sur des comités dominés par les élites économiques. Il ne s'agissait pas d'un système explicitement censitaire comme ceux appliqués au Royaume-Uni et en France au XIXe siècle, voire jusqu'en 1911 comme en Suède avec des droits de vote proportionnels à la fortune, mais les faits étaient du même ordre. Les milieux d'affaires concentraient l'essentiel des pouvoirs. Ce système de type colonialiste propriétariste n'a été modifié qu'à la marge lors de la rétrocession à la Chine communiste. en ce début du XXIe siècle, des élections libres sont formellement organisées à Hong Kong, mais uniquement entre un petit nombre de candidats qui doivent au préalable être majoritairement approuvés par un comité de nomination. Comité qui est constitué par Pékin et trusté en pratique par les milieux d'affaires hongkongais et autres oligarques pro-chinois. Dans l'absolu, on pourrait certes imaginer un monde où la Chine participerait avec l'Europe, les États-Unis et les autres régions du monde à la mise en place coordonnée d'une plus grande transparence financière, et où cette coopération permettrait de mettre fin aux paradis fiscaux des différents continents, qu'ils se situent à Hong Kong, en Suisse ou dans les îles Caïmans. Il n'est pas impossible que cette situation survienne un jour. De larges parties de la population chinoise sont scandalisées par la dérive plutocratique du pays. Une partie des intellectuels défendent des solutions social-démocrates en contradiction directe avec les politiques menées par le régime, alors que d'autres ont développé, depuis la répression de Tiananmen, 1989, de nouvelles formes d'engagement pour combattre les inégalités. À ce stade, cependant, il est clair que nous en sommes très loin. Interrogés sur ces questions, les responsables et intellectuels chinois proches du pouvoir expliquent souvent que les autorités sont conscientes des risques de fuite de capitaux à la Russe et que de nouvelles formes d'imposition progressive des revenus, des successions et des patrimoines devraient être instituées très prochainement en Chine. Ces annonces restent cependant sans effet à ce jour. Le second élément de réponse, généralement apporté, et sans doute le plus significatif, et que la Chine n'a pas besoin de ces solutions fiscales à l'occidental, complexes et souvent inefficaces, et que le pays doit inventer ses propres voies, en particulier sous la forme d'une lutte sans merci contre la corruption menée par le PCC et l'appareil d'État. De fait, dans les nombreux écrits théoriques consacrés par le président chinois Xi Jinping, dont le nom figure depuis 2018 dans le préambule de la constitution du pays, aux côtés de Mao Tse-tung et Deng Xiaoping, au socialisme aux caractéristiques chinoises, on ne trouve nulle référence à des impôts progressifs, pas plus qu'à des systèmes de cogestion, d'autogestion ou de partage du pouvoir dans les entreprises. On trouve, en revanche, de nombreuses références au fait que la main invisible du marché doit être puissamment équilibrée par la main visible du gouvernement, qui doit permettre de contrôler et de corriger tous les abus. Xi Jinping revient régulièrement sur le risque d'une dégénérescence potentielle du parti, du fait de la durée de son exercice du pouvoir, que seule une lutte implacable contre la corruption permettra de prévenir. La perspective des nouvelles routes de la soie est longuement évoquée, ce qui permet d'exprimer discrètement mais fermement l'idée d'un retour de l'humanité à une mondialisation chinoise commerçante et bienveillante, connectant les espaces sans volonté d'intrusion politique et permettant enfin de mettre un terme final au vertige colonialiste des Européens et aux funestes traités inégaux qu'ils imposèrent à la Chine et au monde. L'ensemble permet aussi de promouvoir la vision géopolitique d'un retour à un bloc eurasiatique central, dont la Chine serait le pivot, face à une périphérie américaine enfin renvoyée à sa place. En ce qui concerne les institutions concrètes permettant de réguler les inégalités et de mettre fin aux injustices et à la corruption, force est cependant de constater que le discours sur le socialisme aux caractéristiques chinoises n'est pas très précis. On sait que la main visible du gouvernement et du parti sera implacable, mais il est difficile d'en apprendre davantage. Or, il n'est pas sûr du tout que la méthode consistant à mettre en prison les oligarques ou les cadres de l'appareil d'État qui se seraient trop ostensiblement et scandaleusement enrichis soit à la hauteur de l'enjeu. À l'automne 2018, la star de cinéma Fan Bingbing avait été mise en détention après qu'un présentateur vedette de la télévision d'État avait révélé qu'elle bénéficiait d'un contrat non déclaré d'un montant de 50 millions de yuan, alors que la rémunération officielle de la star n'était que de 10 millions. L'affaire a fait grand bruit, et le pouvoir y a vu une occasion rêvée pour montrer qu'il était prêt à s'en prendre aux inégalités excessives et au culte de l'argent. Le cas est certes intéressant, mais on peut sérieusement douter que l'on puisse efficacement réguler les inégalités dans un pays de 1,3 milliard d'habitants simplement en ayant recours à des dénonciations et à des emprisonnements, tout cela sans aucune forme d'enregistrement et d'imposition systématique des patrimoines et des successions, et en empêchant les journalistes, les citoyens et les syndicats de développer une capacité autonome d'investigation et de participation, voire en mettant en détention ceux qui s'intéresseraient de trop près aux fortunes accumulées par les proches du pouvoir. Rien ne garantit que le régime chinois parvienne à éviter une évolution kleptocratique à la russe. De l'effet de la révolution culturelle sur la perception des inégalités. Au final, le pouvoir chinois ne semble pas prendre très au sérieux le fait qu'une société fondée sur la propriété privée, sans garde-fous fiscal et social suffisant, court le risque d'une dérive inégalitaire qui peut s'avérer funeste à long terme, comme le montre également l'expérience de l'Europe au XIXe siècle et pendant la première moitié du XXe siècle. Sans doute, faut-il y voir, une nouvelle manifestation du sentiment d'exceptionnalité qui caractérise tant de sociétés dans l'histoire et du refus d'apprendre des expériences des autres. Il faut également mentionner un facteur historique et politico-idéologique plus spécifique à la Chine, à savoir la violence inouïe de la période du maoïsme et de la révolution culturelle, qui a profondément marqué les perceptions de l'inégalité et en particulier des transmissions familiales. La Chine sort tout juste d'une expérience traumatique majeure, où la tentative d'interrompre la reproduction intergénérationnelle de l'inégalité a pris une forme particulièrement radicale avec l'arrestation et la mise au ban de la société de tous ceux que les origines familiales rattachaient de près ou de loin aux anciennes classes propriétaires et intellectuelles de la société impériale chinoise. Des pans entiers de la société chinoise actuelle, en particulier au sein de la classe dirigeante, ont eu des parents, des grands-parents ou des membres de leur famille tués ou très durement traités pendant la révolution culturelle. Après une remise à plat aussi violente du processus de transmission, après un prix aussi chèrement payé par les familles, l'idée selon laquelle la logique de l'accumulation doit reprendre ses droits, au moins pour un temps, semble avoir acquis une plausibilité particulière en Chine. Dans Brothers, 2006, le romancier chinois Yu Hua évoque au travers des destins croisés de deux demi-frères les transformations radicales des valeurs du pays depuis la révolution culturelle, où l'on fait la chasse aux descendants de propriétaires fonciers et l'on promeut la chasteté jusqu'aux années 2000, où tout s'achète et se vend. C'est le cas des fabriques et des terrains monnayés avec gourmandise par les responsables locaux du parti comme des faux saints et des faux hymens utilisés pour les concours de fausses vierges pour le plus grand bonheur des forains et du nouvel homme chinois, enfin prêt à profiter du monde sous toutes ses formes. Avec l'ouverture économique et les privatisations, tout est autorisé, pourvu que les statistiques de PIB régional poursuivent leur ascension vers le ciel. Des deux demi-frères, tous deux nés en 1960, Li Guangtu et Song Gang, le premier est sans nul doute le moins honnête, et c'est lui qui deviendra milliardaire. Il commence dans les années 1980, dans la friperie, la récupération de métaux et les fabriques de carton, fait fortune dans les années 1990 en écoulant des cargos entiers de costumes japonais usagés, en lieu et place des vestes Mao dépassées, et devient multimillionnaire dans les années 2000, habillé en Armani et prêt à s'offrir un voyage privé sur la Lune. Mais pour finir, il apparaît presque plus sympathique que Song Gang, qui se fait broyer sans réagir par le système, quelle que soit l'époque. La révolution culturelle, 1966-1976, qui frappe les deux demi-frères avec violence, apparaît bien comme une tentative de transformer les consciences et de trouver des coupables, après que les collectivisations agricoles et industrielles des années 1950 et 1960 n'ont pas produit le grand bond annoncé. Le père de Song, qui fait la fierté des deux jeunes enfants avec son brassard rouge et son entrain de bon citoyen communiste, se retrouve vite arrêté et perquisitionné. Fils de propriétaire foncier et lui-même professeur de collège, il incarne les anciennes classes dominantes qui, sans le savoir, sabotent la révolution, car au fond elles ignorent et méprisent le peuple. Les gardes rouges vont se charger de lui rappeler que c'est par la transformation culturelle et idéologique que la Chine expira son lourd passé inégalitaire. Il garde également un certain sens pratique. Quand ils viennent fouiller son domicile, ils vident toutes les armoires dans l'espoir d'y retrouver des titres de propriété prêts à être ressortis au moindre changement de régime. Ils ne trouveront rien, mais Song Fanping, le père, finira lynché. Les deux enfants rapporteront son corps sur une charrette au travers du bourg des Liu, aidés par Tao King. au-delà des aspects dramatiques. Le texte permet de prendre la mesure d'une transformation politico-idéologique déconcertante, menant en quelques décennies de la révolution culturelle à l'hypercapitalisme à la chinoise, depuis les caramels lapins blancs, de fabrication socialiste qui ravissent les jeunes enfants à la fin des années 1960 et au début des années 1970, à une époque où seul le chef de l'armée populaire du district avait droit à une rutilante bicyclette, jusqu'aux envies de tourisme spatial des milliardaires nouveaux riches des années 2000-2010, en passant par le grand rush national vers les affaires des années 1990 et ses juteuses bidouilles.